France Culture.
Hans le Malin, le cheval qui savait lire et compter. Un documentaire de Carla Michel et Anne Fleury. Deuxième épisode, l'héritage scientifique.
C'est un livre un peu étrange hein, pour moi, Hans, parce que je l'ai fait en attendant de trouver un projet. Je suis sortie de ma thèse en 97, je pense, et j'avais pas envie de me relancer dans un gros projet, quoi. À mon avis, ce qui a dû me titiller, c'est que j'ai dû lire dans une note de bas de page chez Rémi Chauvin, donc j'en ai entendu parler en psycho, et j'ai lu dans une note de bas de page que Rémi Chauvin disait que Hans était télépathe, mais lui, sérieux, quoi. Je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre pour un scientifique français. S'il y a tant de controverses, c'est que l'histoire n'est pas aussi claire que ça. Donc je suis allée relire son enquête, plus deux, trois autres trucs. Hans pouvait faire un petit projet. Il pouvait faire un très gros projet. J'aurais pu faire. Quand j'ai un peu donné cours sur Hans, j'utilisais Hans pour refaire l'histoire de la psychologie expérimentale en disant, mes étudiants, regardez, on est en 1904. Oui. Ça vient à peine de commencer. Et tout est déjà en place pour ce qui va arriver plus tard. Quoi. Ça, c'est impressionnant. Il y a toutes les conditions du behaviorisme, etc., sont déjà mises en place.
Alors, elle, c'est Nora. C'est une jument frisonne qui est arrivée à l'écurie il y a quelques mois déjà.
Émilie de Franou.
Une histoire un peu particulière parce qu'elle s'est cassée le pied. Donc, on est à la fois sur une rééducation physique et mentale. On essaie de lui apporter pas mal de décontractions. C'est une jument qui est assez stressée à la base de pas mal de choses, mais qui est vraiment chouette.
Imaginons que je n'y connaisse absolument rien. J'arrive ici au centre Equiclever H. Qu'est-ce que je peux utiliser comme méthode, moyen concret pour communiquer
Moi, je vous proposerais de venir, même pas tout de suite dans son box.
Christophe Brouillet.
Juste vous rapprocher à l'extérieur du box, établir une espèce de pré-contact, simplement en la regardant, en l'observant, tout simplement, jusqu'à pouvoir évidemment aller la rencontrer, y aller avec un rythme plutôt lent, avec une approche plutôt latérale et non pas frontale.
Et donc, Hans, on en parlait à propos de la possibilité...
Vinciane Després.
La hantise, dirais-je, des expérimentateurs en psychologie, disant que, d'une certaine manière, nous influençons ceux que nous interrogeons. Vous posez une question à un animal ou à un humain, vous avez l'impression qu'il vous répond, et en fait, il répond à une toute autre question. Et c'était une réponse qui était visiblement imprégné, influencé, prédéterminé par la manière dont on avait posé la question et par la question même. C'était quelque chose qui n'a jamais cessé de hanter la psychologie.
Axel Clearmans, est-ce que vous considérez que Hans, l'effet Hans le Malin, illustre, là je reprends les mots de Vinciane Després, le cauchemar des psychologues?
Ben alors, le cauchemar des psychologues, donc ça, c'est une philosophe qui écrit cela, mais c'est un véritable problème, effectivement, en psychologie d'une manière générale. Et donc, on doit parvenir à se placer dans des conditions dans lesquelles les sujets ne cherchent pas, si vous voulez, à répondre aux demandes des expérimentateurs, parce que là, on introduit toute une série de biais qui ne reflètent pas nécessairement la réalité objective, si on peut dire. Alors, toutes ces préoccupations mettent également en évidence que la psychologie, c'est pas la physique. On est ici dans un domaine qui implique nécessairement la subjectivité des sujets de l'expérience, mais également des interactions sociales entre expérimentateurs et participants à ces expériences. Donc, on a beau chercher à objectiver complètement les participants, c'est souvent très très difficile.
Et justement, l'une des méthodes pour éviter l'effet Hans le Malin ou l'effet expérimentateur, c'est la méthode en double aveugle, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, le plus simple, c'est peut-être pour l'explication, l'effet placebo. Donc je vous donne un médicament qui est décrit comme un médicament, mais qui ne contient rien. Alors, idéalement, dans une expérience en double aveugle, le participant ne sait pas s'il se trouve dans la condition placebo ou dans la condition médicament qui contient un principe actif, mais l'expérimentateur, lui non plus, ne sait pas dans quelles conditions se trouve le participant. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que si l'expérimentateur connaît la condition dans laquelle se trouve le participant, son propre comportement pourrait influencer en fait la manière dont le participant se comporte. Exactement comme dans le cas de Clever Hans, où on influence ce qui est en train de se passer sans en avoir conscience, en fait.
Vinciane Després, comment l'histoire de Hans a-t-elle ensuite continué à inspirer la psychologie expérimentale? Et je pense ici au psychologue Robert Rosenthal, qui s'appuie, lui, sur ce qui s'appelle l'effet Hans le malin, un effet qui est aussi connu sous le nom de effet Clever Hans en anglais, qui permet de rendre compte de l'influence de l'expérimentateur sur tout vivant qu'il interroge, humain ou bien animal.
Alors Robert Rosenthal, donc on est dans les années 60 aux États-Unis. Il est professeur de psychologie dans une université, il a des étudiants en psychologie. Et chaque année, dit-il à ses étudiants, donc chaque année vous êtes obligés, par rapport au cours de psychologie, de faire ce qu'on appelle un practicum, et vous devez travailler avec des animaux. Et cette année-ci, en fait, dit-il, nous avons quand même un truc un peu particulier, c'est que nous allons recevoir des rats qui viennent de l'université de Berkeley, qui est comme une prestigieuse université aux États-Unis. Ce sont en fait des rats qui sont des descendants de rats qui ont été testés sur la question de l'hérédité de l'intelligence. Alors, comment est-ce qu'on teste des rats sur la question de l'hérédité de l'intelligence, quoi qu'on pense de ce genre d'idées et de la manière dont ça a été testé? C'est, vous les faites courir dans des labyrinthes, vous voyez combien de temps ils mettent à apprendre correctement à faire le labyrinthe, et en fonction du temps mis par chaque rat, vous pouvez, d'une certaine manière, le classer en fonction d'une compétence cognitive au labyrinthe ou non. À partir du moment où vous avez fait courir vos rats, vous prenez les meilleurs d'entre eux et vous veillez à ce qu'ils ne se croisent plus qu'entre eux. Et dit Rosenthal, donc toujours en expliquant ça à ses étudiants, voilà, en fait, on a constaté qu'il y avait une amélioration des compétences et des résultats dans le groupe des intelligents et une certaine dégradation des résultats dans le groupe des dulles, des idiots, des médiocres. Mais comme ils sont arrivés à un effet de plateau au bout de quelques générations, ils ont arrêté l'expérience, mais ils ont gardé des spécimens et ils ont veillé à continuer à les reproduire entre eux, on ne sait jamais. Et donc, nous allons recevoir ces spécimens. Et je vais vous donner un rat par groupe de deux étudiants et vous allez devoir le tester et vous verrez un peu quels sont ses résultats. Bon, est-ce que l'intelligence est restée au travers des générations? Est-ce qu'elle n'est pas restée? On verra. Et donc, les étudiants se sont mis au travail et quelques temps après, ont rendu leurs résultats et les rats héritiers des rats sélectionnés pour leur intelligence manifestaient des compétences relativement bonnes. En revanche, les rats héritiers de rats sélectionnés pour leur médiocrité avaient des compétences relativement pas bonnes. Sauf que, évidemment, il n'y avait pas de rats héritiers. Berkeley n'avait jamais été le pourvoyeur de rats de cette université. Et les rats avaient été achetés dans une animalerie locale et n'avaient pas d'illustres ancêtres dévoués à la science. Et donc, Rosenthal essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la certitude que les étudiants n'ont pas triché. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des assistants qui passaient dans les labos pour voir que les chronomètres étaient bien déclenchés au bon moment, que les étudiants faisaient bien le boulot, qu'ils faisaient vraiment travailler leur rat, etc. De surcroît, Rosenthal dit, c'est peut-être un détail, mais pour moi, ça importe quand même. Il dit, en plus, il n'y avait pas de points selon le résultat de l'expérience. Tout le monde recevait d'office le grade A ou le grade 16, si vous voulez, quelle que soit l'issue de l'expérience. Donc, les étudiants n'avaient pas intérêt à tricher. Parce que c'est vrai que si on vous donne un rat intelligent et que vous trouvez qu'il est idiot, vous pourriez avoir peur d'une sanction et de perdre cette fameuse ressource que sont les grades et les points. Et puis, Rosenthal est allé quand même un peu plus loin. Et c'est là où ça devient très intéressant. Il a quand même interrogé ses étudiants en disant « Mais tiens, mais qu'est-ce que ça vous a fait? Comment est-ce que vous y êtes pris, etc. ?» Et il découvre que quand les étudiants avaient le sentiment qu'ils avaient affaire à un rat intelligent, ils ont été gentils avec le rat. Ils ont été sympas, ils l'ont caressé, ils l'ont encouragé. « Allez, vas-y Bernard, tu vas y arriver, tu vas voir. Vas-y, for the sake of science, cours vite mon gars, etc. » Ils allaient peut-être même, entre deux expériences, ils allaient dire un petit coucou au rat, etc. Donc, il y a des phénomènes d'attachement qui se sont créés. Et que les étudiants qui avaient affaire à un rat idiot, visiblement, ça s'est pas passé de la même manière. D'autant plus que, je vais se dire aussi que c'était pas tout à fait juste, parce que, un rat intelligent, il va vous faire son apprentissage en quelques heures, quelques jours, je sais pas. Les autres, ils peuvent passer leur week-end au labo, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a dû jouer. Toujours est-il qu'ils n'ont pas traité le rat de la même façon. Et donc, ce que Rosenthal fait, finalement, en héritier de l'histoire de Clever Hans, et ça, c'est ce qui est la plus triste de cette histoire, parce que cette expérience, elle est pleine d'humour, elle est marrante, elle est bien foutue, elle est bien ficelée, c'est vraiment malin. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Rosenthal conclut, attention, visiblement, nos expérimentateurs ne sont pas fiables. Ils ont des attentes qui influencent les animaux, même les animaux, parce que ce n'est pas les animaux qui intéressent. Rosenthal, ce n'est pas psychologue des animaux. Et donc, ce qui est triste, c'est que Rosenthal dira, finalement, il faut beaucoup mieux éduquer les expérimentateurs, moi je dirais les dresser, à ce qu'ils prennent de la distance, à ce qu'ils ne soient pas affectivement investis, à ce qu'ils soient parfaitement neutres et tout. Et s'ils ne le peuvent pas, il faudra les remplacer par des robots. Il est complètement aveuglé par cette volonté scientiste. Et donc ça, c'est la tristesse de l'histoire de Rosenthal, où il aurait pu faire quelque chose de bien plus joli. Est-ce que ce qu'on cherche finalement dans ces recherches, est-ce que ce n'est pas ce que les animaux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, puissent collaborer au mieux? Il a la preuve, il voit, si vous voulez que vos animaux collaborent, fassent le mieux possible, manifestent le meilleur apprentissage possible, soyez gentils avec eux.
Vous n'êtes pas éthologue scientifique, c'est pas comme ça que vous vous considérez?
Non, on l'est pas, ça nous intéresse beaucoup, mais ça n'est pas ce que nous sommes, et par contre, on s'inspire beaucoup. Donc le poids des mots, implicitement parlant, il est important. Avant, on parlait de trois fondamentaux qui sont respect, confiance, connexion. Là maintenant, et c'est bien d'avoir changé, on parle de contrôle, de confiance et de connexion. Donc ça, c'est quand même la connaissance et les acquis de connaissance pour les praticiens tels que nous sommes, via le monde scientifique, qui nous ont permis de nous adapter et d'avoir un langage plus clair, plus juste.
La confiance, elle se gagne déjà. C'est-à-dire que le cheval, il est plutôt proie et nous prédateurs à la base, donc il y a des choses qui ne sont pas innées. Donc c'est à nous de gagner sa confiance par tout un tas d'exercices, en effet bien sûr, mais aussi par la manière dont on interagit avec lui au quotidien. Il n'y a pas que les exercices, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un art de vivre autour, ou dans la manière de faire le box, de l'amener au pré, de juste le soigner au quotidien. Tout ça, c'est une mise en confiance, il n'y a pas que le travail en lui-même, j'allais dire. Après la mise en confiance au niveau des exercices, notamment, on pense forcément à la désensibilisation.
Désensibilisation, habituation, c'est en fait créer des situations qui seraient susceptibles de faire peur un peu au cheval. Alors non pas pour lui faire peur, mais simplement au travers d'une certaine manipulation, tenter de faire en sorte qu'il n'active pas ses réponses de fuite.
On va les habituer à des stimuli différents, donc on va commencer par des stimuli plus simples que du bruit, par exemple. Donc on va commencer par du contact. Est-ce qu'on peut caresser partout notre cheval? C'est des fois un problème et un sujet sur certains. Après, on va avoir le mouvement, notre propre mouvement, le mouvement de nos outils, le mouvement avec, par exemple, un stick, avec une cordelette ou une chambrière va inclure également progressivement la notion de bruit. Et après, progressivement, le bruit, ça peut être aussi le bruit d'un sac plastique, le bruit d'un drapeau, le bruit des tondeuses. Nous, on les prépare, par exemple, avec les brosses à dents électriques, puisqu'on sait qu'on peut tondre un cheval, ne serait-ce que pour des soins, pas forcément pour l'utilisation sportive du cheval, mais pour un soin, on est obligé à un moment donné de tondre s'il y a besoin de désinfecter la plaie. Dans le bruit, on a aussi tout ce qui est préparation pour le maréchal. Donc on va vérifier que le cheval n'ait pas peur de tapotement sur ses pieds. Qu'est-ce qui me vient d'autre au niveau du bruit? Alors il y a aussi une autre notion dans le bruit, auquel moi je tiens beaucoup maintenant, qui est le clicker training. Et là, on a un autre aspect du bruit, qui est d'associer positivement un son à un comportement. On va expliquer au cheval que c'est le comportement qu'on attend via un bruit. Et voilà, j'y pense parce qu'on parle de bruit.
Je peux avoir un exemple de...
Ça, je vous le montrerai sur le terrain, ce sera plus simple.
Alors, vous écrivez, Vinciane Després, que grâce à Pungst, Hans entre en psychologie. Pourquoi? Et n'est-ce pas compliqué d'imaginer un cheval comme objet d'étude pour les psychologues?
Ce que je voulais dire par là, en disant le cheval est entré en psychologie, ça veut dire qu'il va entrer dans un régime de savoir qui va le transformer. Ce qu'on pensait du cheval jusque-là, ce que le cheval même était jusque-là, va être profondément modifié. Parce que Pfungst va vouloir, d'une certaine manière, faire de ce cheval un être étudiable. C'est-à-dire que ce cheval va devoir se soumettre aux contraintes de la psychologie. Et les contraintes de la psychologie vont d'ailleurs peser très lourdement sur lui, puisqu'on peut penser en effet que ce cheval va être au moins transformé par les épreuves et va être également, je pense, appauvri par ces épreuves. Et que c'est ça un processus du réductionnisme qu'on voit à l'œuvre concrètement. Si on doit penser le réductionnisme, c'est peut-être là où on peut le voir à l'œuvre. C'est que Pfungst avait su détecter les mouvements des questionneurs dont on vient de parler, les mouvements de tension et de détente de la nuque et du dessus des épaules et éventuellement de la tête. Et à partir du moment où Pfungs va interroger le cheval, ou faire interroger le cheval par des questionneurs avec qui il travaille, il va demander au questionneur de faire ce geste-là. Ce qui veut dire que tous les autres gestes par lesquels le cheval se retrouvait peut-être aussi, toutes les autres sensations, les petits mouvements musculaires, que sait-on, peut-être même la respiration, en tout cas tous les autres gestes, vont être en quelque sorte effacés, et non pas effacés réellement, peut-être que les questionneurs continuent à les performer, mais peut-être pas, mais qu'en tout cas, ils vont tellement polariser l'attention du cheval sur des gestes que le cheval peut facilement retrouver, que je me suis demandé, tiens, est-ce que le cheval n'a pas perdu des compétences qu'il avait, indépendamment du laboratoire.
RTF. Les animaux ont-ils une âme ?
1948.
Monsieur Sainte-Lagu, vous avez peu pris la parole, somme toute. Voudriez-vous...
Oui, je m'obstine. Je pense que cette discussion est prématurée. Ne m'en veuillez pas. Je veux dire par là qu'il faudrait la reprendre dans quelques siècles et que nous ne pouvions pas attendre, évidemment. Mais l'étude de la psychologie des animaux fait de tels progrès qu'il faudrait peut-être mieux attendre, comme je le disais, que cette étude soit arrivée à sa conclusion. Eh bien, on arrive maintenant à interroger les animaux, à connaître leur psychologie, toutes leurs facultés, et mentales, et physiques, et physiologiques, et on découvre chaque jour des capacités dans l'animal qu'on ne connaissait pas auparavant. Encore une fois, plus on va, plus on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre l'animal et l'homme, sinon des gradations insensibles qui vont de celui qui peut le moins à celui qui peut le plus.
Est-ce que vous pouvez nous donner les trois conceptions de la conscience qui ont été énumérées par Oscar Pfungs ?
En fait, Pfungs effectivement énumère trois conceptions. La première, c'est que les animaux sont dotés d'une certaine forme de conscience, mais qui est limitée. Ils seraient incapables de raisonner d'une manière aussi abstraite que l'homme, mais ils seraient quand même capables de réaliser des associations et de stocker énormément d'informations en mémoire. Et puis, il y a la conception cartésienne, si vous voulez, dans laquelle l'animal est vraiment une machine. Hein, donc, il n'y a pas de conscience. Cela ne fait rien, un animal, d'être cet animal. Et puis, il y a peut-être une troisième conception, qui est que les animaux et l'être humain sont placés sur une forme de continuum. Et donc, il y a un ensemble de capacités, de compétences qui sont présentes à différents degrés, tant chez l'animal que chez l'homme. L'homme, ainsi, se trouve peut-être un petit peu moins différent de l'animal que ce qu'on envisageait jusque-là. Ce qui est remarquable, c'est que après l'histoire de Hans et tous ces débats autour de la conscience animale, les animaux sont vraiment retournés dans leur domaine, si vous voulez, pendant très longtemps. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interrogations autour non seulement de l'intelligence des animaux, de leur capacité cognitive, on va dire, mais également autour de la conscience animale, c'est-à-dire de la possibilité que toute une série d'animaux aient une conscience de leur propre existence, qu'ils ressentent des choses, qu'ils font l'expérience du monde un petit peu de la même manière que nous, avec évidemment des systèmes sensoriels qui sont parfois très différents de ceux de l'être humain.
Comment est-ce qu'on peut connaître l'expérience vécue, subjective d'un animal, imaginons Hans, comment est-ce que je peux mettre à sa place et à savoir de quoi il avait conscience ?
Eh bien, c'était le point effectivement essentiel de cet article de Thomas Nagel, « What is it like to be a bat ?» Je ne sais pas en fait l'effet que ça fait d'être cette chauve-souris, je ne sais pas d'ailleurs l'effet que ça fait d'être vous. Mais quand on parle de psychologie humaine et en particulier de conscience, je ne peux pas me passer de l'exigence de devoir vous interroger pour savoir ce qui se passe dans votre tête. C'est un petit peu en train de changer aussi parce qu'on a quand même maintenant des méthodes d'imagerie cérébrale qui permettent, dans certains cas en tout cas, de reconstruire les états mentaux à partir de la biologie du cerveau. Mais en gros, si j'ai envie de savoir ce que vous êtes en train de penser, eh bien je ne peux pas me passer de vous poser la question. Or, ni les animaux, ni les nouveau-nés, les jeunes enfants ne sont capables d'utiliser le langage pour exprimer ce qui se passe dans leur tête à un moment donné. Et on est donc confronté là à un immense problème qui est justement qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Hans, on ne sait pas comment ça fonctionne et on n'a pas vraiment de bons moyens d'en savoir davantage.
Donc, en fait, la Goa, je vous présente ma jument de cœur Goa. Donc, elle a 26 ans, bientôt 27. C'est une jument arabe avec laquelle j'ai été formée. C'est mon meilleur professeur. On s'est formées toutes les deux. Et maintenant, elle est à l'âge qu'elle a, en récréation quand elle vient avec moi. On maintient en fait le physique par des petites séances comme ça, de liberté, de balade en forêt, et un petit peu de stretching, un petit peu voilà, tranquille, pour que le dos continue d'aller suffisamment bien pour qu'elle soit en forme. Mais on n'est plus que sur le côté relationnel, j'allais dire, pour le coup, avec elle. Et donc là, on est passé en fait sur une aire d'évolution qu'on appelle le rond de longe. Alors celui-ci, il est un peu particulier parce qu'il n'est pas rond, il y a des coins. Et l'environnement permet du coup, comme il est petit et sécurisé, de lâcher le cheval en liberté et de pouvoir commencer à communiquer avec lui dans un environnement sécure, autant pour le cheval que pour l'humain.
Donc quand on dit en liberté, ça va être sans le licol qu'il a autour du visage ?
Exactement, c'est-à-dire qu'on enlève le licol, la longe, et on voit un peu ce qui reste. Bien sûr, on commence pas comme ça, on a mis en place une éducation de base qui nous permet derrière... Voilà, ça c'est... Goa, même à 26 ans, reste un jeune cheval, voilà. je vais me mettre en mouvement avec mon cheval, c'est plus facile pour moi d'être avec le cheval.
Ouais,
bah,
on se
recule
un peu
ou... Pourquoi est-ce que finalement... Hans jouait si bien le jeu. Pourquoi est-ce que ça a si bien marché avec Von Osten ? Mais parce que les chevaux, et même avec Funks, malgré que Funks le réduisait pas mal, mais parce que les chevaux, ce cheval en tout cas, et beaucoup d'animaux ont une préférence pour l'accord. Et c'est pas de la bienveillance, c'est pas de la compliance, c'est pas, etc. C'est juste une caractéristique de beaucoup d'êtres sociaux. C'est une préférence pour l'accord et ça peut même marcher. On le voit tant avec les rats qu'avec le cheval que ce qu'on peut voir avec ma chienne Alba. Il y a des préférences pour l'accord entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont vraiment envie de faire plaisir.
Christophe, qu'est-ce qu'on voit depuis tout à l'heure ? Qu'est-ce que fait Emilie avec Goa ?
Là, en fait, ce qu'elles sont en train de faire ensemble, évidemment, c'est un peu les interactions qu'Emilie lui propose. Emilie, elle n'a pas trop d'attente là, particulière. La jument, elle est relativement savante.
Même si elle ne lui parle pas tout le temps avec des mots, il y a des petits bruits avec la langue, avec la bouche. Pourquoi ?
Ouais, mais c'est des petits stimuli. Ça permet de la stimuler un petit peu.
Voilà,
elle galope. Donc là, on entendait effectivement Émilie qui faisait des petits bisous.
Ça, en rythme, c'est... non ?
En rythme, ouais. Ouais. En rythme avec la foulée de galop de la jument.
Et pourquoi ?
Voilà. Et bien parce que c'est un peu des codes qu'ils ont établis ensemble. Goa sait ce que ça veut dire. Elle y répond, tout simplement.
Après.
J'imagine qu'elle a anticipé un exercice. Ouais.
Ah voilà, bah là, voilà, elle devient un petit peu exubérante.
Est-ce que là, elle s'amuse davantage ?
Oui, tout à fait. Et puis on voit que la tonicité musculaire est différente, elle remonte un petit peu la tête, les oreilles sont...
Elle respire plus vite aussi, non ?
Elle respire plus vite, et elle devient un peu un personnage maintenant exubérant.
Plus expressif.
Plus expressif.
Doucement.
Bah, bravo à toutes les deux.
Merci.
Moi j'ai eu l'impression que vous dansiez avec elle. Ah, enfin ensemble du coup.
Bah c'est le but en fait, dans l'idée c'est qu'on soit ensemble. Et maintenant, il y a même des fois où j'attends, je vois ce qu'elle a envie de proposer. Et vous voyez, au début, elle voulait absolument mettre le debout tout de suite.
Oui.
Je dis, on l'attend un peu, mais je savais que j'allais lui demander parce qu'elle avait envie de le donner. Et il y a des fois où le dos est moins en forme et du coup, elle n'a pas envie et je ne vais surtout pas lui demander. Et je le sais d'entrée de jeu parce que dans la manière de reculer, elle se prépare à le faire ou pas et je vois si elle se prépare ou pas. Si elle se prépare pas, c'est que ce n'est pas le jour. Comme nous, hein, ces envies du jour, il y a aussi à l'âge qu'elle a...
Les chevaux sont des grands lecteurs de corps. Les chevaux qui sont dressés sont des grands lecteurs musculaires. Et là, on trouve plein. Alors, on trouve quantité d'extraits, de belles choses entendues par des cavaliers, par des éducateurs, dresseurs de chevaux. Même dans Tolstoï, vous trouvez un extrait absolument extraordinaire. C'est que quand un cheval est débourré, c'est-à-dire qu'il n'a plus le réflexe de rejeter le cavalier qui est sur son dos comme s'il s'agissait d'une proie, qui est un réflexe instinctif. Donc une fois que le cheval est débourré et puis qu'il était d'une certaine manière éduqué à faire corps avec son cavalier, le moindre petit mouvement du cavalier est perçu par le cheval. Et c'est comme ça qu'on reconnaît à la fois les très bons chevaux et les très bons cavaliers. C'est qu'il y a une espèce de synchronisation de leurs mouvements qui est absolument extraordinaire. Ce qui faisait d'ailleurs dire à ce grand connaisseur éthologue des chevaux, qui était Jean-Claude Barret, que les chevaux et les cavaliers connaissent ce qu'il appelait une isopraxie, c'est-à-dire le moindre petit mouvement d'épaule du cavalier va être automatiquement et presque synchroniquement suivi du même mouvement d'épaule chez le cheval. Son corps va se mettre tout de suite dans la même position que l'épaule du cavalier et il va tourner. Un basculement du bassin chez le cavalier provoque un basculement du bassin chez le cheval et c'est la lancée au galop. Bref, ce qui veut dire que cette isopraxie témoigne et traduit en même temps une incroyable connivence corporelle entre cavaliers et chevaux. Et donc, ce dont Hans a témoigné, c'est que lui avait réussi à transférer une compétence qui normalement est lue par son propre corps, le poids de mon cavalier, le mouvement de mon cavalier, le déséquilibre du mouvement de mon cavalier par rapport au mouvement dans lequel moi-même j'étais, et que Hans a réussi à transférer ça, à transférer au niveau visuel une sensibilité absolument fabuleuse de lecteur, de lecteur musculaire.
Attention, juste parce qu'il connaît le pédestre. Tout va bien. Voilà. Ça, c'est un autre truc qu'il sait faire et qui est une autre fin de séance.
Il nous montre tout. On a
oui,
de la chance.
Il a décidé qu'il allait tout vous montrer.
Et là, pour le coup, il avait le choix.
Je lui ai rien demandé, mais il a décidé d'y aller. Donc je vais... En fait, lui, il est en train d'apprendre par rapport à la mienne. Donc, exceptionnellement, tu auras la main, mon gars.
Et du coup, il y a une forme de...
Non, stop, on va arrêter. Je vais lui remettre le licol, je vais l'enlever. Autrement, il va faire que ça. Tu n'auras pas de deux bonbons. Tu l'as déjà fait.
Spectacle.
Tu l'as déjà fait.
Pardon.
faut que j'arrête et que je l'enlève de là. Autrement, il va pas comprendre.
C'était Hans le malin, en fait, le cheval qui savait lire et compter. Deuxième épisode, l'héritage scientifique.
Et ça peut devenir ce qu'on appelle nous un problème positif. Non, t'auras plus rien parce qu'en fait c'est stop. Voilà.
Hans le malin faisait pareil, hein, il tapait du pied.
Parce qu'il avait... Et voilà, ça c'est typiquement.
Avec Émilie de Franou et Christophe Bruyère de l'écurie Equi Clever H, Vinciane Després et Axel Clermans. Merci à Fabien Cazot.
En tapant du pied. Tu vois, oui. Ça, c'est très ça, entier. Ouais, et puis les dents, je ne sais pas si tu as vu, mais lui, il est vite à essayer de mordre des fois. C'est un petit côté entier, ça. Hein ? Mais oui, c'est gentil. C'est gentil, mais t'as pas mal de mordre. Allez, on descend. Oui, on va rentrer.
Prise de son, Johanna Gabric et Paul Guig. Mixage, Alison Ascrizzi. Archivina, Mylène Touchet, chargée de programme, Sandrine Chaperon, coordination, Emmanuel Laurentin, un documentaire de Carla Michel, réalisé par Anne Fleury.